Voici les deux textes liturgiques pour ce quatrième dimanche de l'Avent. L'épître est tirée de saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, que l'on nous considère comme les serviteurs du Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu. Or donc, ce qu'on cherche ici-bas dans les dispensateurs, c'est la fidélité. Et pour ceux qui ne me regardent personnellement, être jugé soit par vous, soit à la lumière d'un tribunal humain n'est pas ce qui m'importe. Bien plus, je m'abstiens de me juger moi-même, car il est bien vrai que je me sens coupable de rien. Mais je n'en suis pas plus innocenté pour cela, mon vrai juge, c'est le Seigneur. Ainsi, gardez-vous de juger de ces choses prématurément, attendez la venue du Seigneur. C'est lui qui mettra dans la pleine lumière ce que recèlent les ténèbres et qui manifestera les vrais mobiles des cœurs. C'est alors que la vraie louange sera donnée par Dieu à qui de droit. Veuillez-vous lever pour l'Évangile, suite du Saint-Évangile, selon Saint-Luc. La 15e année du règne de Tibère César, Ponce Pilate étant procureur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, Philippe son frère tétrarque de l'Iturée et du pays de Traconite, et de Lysignas tétrarque de la Bilène, sous les princes du prêtre Anne et Caïphe, la parole du Seigneur fut sur Jean, fils de Zacharie, alors au désert. Et il vint dans toute la région du Jourdain prêcher le baptême de pénitence pour la rémission des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles du prophète Isaïe, voici que se fait entendre la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez la voie du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline sera abaissée. Et les chemins tortueux deviendront droits, et les chemins raboteux deviendront unis, et toute chair verra le salut de Dieu. Veuillez vous asseoir. Alors attention, cette semaine, donc il y a un jour de jeûne, le vendredi 23 décembre. Vous savez que c'est le pape Pie XII, qui a changé le jour de jeûne. Avant, le jour de jeûne, c'était la vigile de Noël. Et les mères de famille avaient fait une supplique au pape Pie XII en disant que c'était impossible pour elles de jeûner correctement le 24 décembre, puisqu'elle devait préparer le repas de Noël, et donc le pape a accédé à la demande des mères de famille et a bougé la vigile du 24 au 23. Donc, jeûne abstinence, 23 décembre. Je vous rappelle, jeûne, un repas par jour pour ceux qui ont entre 21 et 60 ans, qui ont qu'à tolérer le matin ou le soir, et abstinence, pas de viande. Ce mercredi court à 19h, Je rappelle aussi les messes de Noël. Donc, pour le jour de Noël, qui est un dimanche cette année, il y aura trois messes. Messe à minuit, qui sera suivie d'un petit réveillon. Messe à 10h. Et messe le soir, la troisième messe, je dirais le soir, après le chapelet. Donc, pour le réveillon, on va faire comme l'année dernière. C'est-à-dire, tous ceux qui peuvent amener quelque chose, amènent quelque chose. Monsieur Suin s'est proposé pour coordonner un petit peu les choses. Donc, si vous voulez amener quelque chose, vous voyez un petit peu avec lui pour que les choses soient bien réparties. Attention, pour ceux qui viennent à la messe en semaine, lundi, mardi, mercredi, messe à 10h, jeudi, messe à 8h. Je suis obligé de remonter dans le nord, en Normandie, de nouveau cette semaine, pour enterrer quelqu'un que je voyais depuis déjà un certain temps. Merci le bon Dieu, j'ai pu confesser cette personne âgée mardi, elle est morte vendredi, donc j'ai promis de retourner vendredi prochain pour l'enterrement. Donc, il n'y aura pas de messe, il y aura une messe. Donc, lundi, mardi, mercredi, 10h, jeudi, 8h, vendredi et samedi, pas de messe. Je serai là, bien sûr, pour la messe de minuit. Attention aussi pour les retraites. Donc, je vous répète que la première retraite du 24 avril au 29 avril est pleine. Je suis presque plein pour la deuxième. Il y a encore deux ou trois places. Et les autres, il y a encore de la place. Donc, n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, dans la liturgie d'aujourd'hui, la Sainte Église nous donne les derniers conseils de préparation pour notre crèche. Je vous ai déjà expliqué, la crèche, notre crèche personnelle, c'est notre âme. Et il faut utiliser cette dernière semaine pour achever les préparatifs. C'est ce que nous dit l'Évangile du jour. Préparer les voies du Seigneur. Et l'Évangile parle du baptême de pénitence institué par Saint Jean-Baptiste, pour préparer le baptême sacramentel de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit que ce baptême de pénitence est institué justement pour la rémission des péchés. Donc nous devons bien utiliser cette dernière semaine de préparation avant la fête de Noël pour justement réaliser pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ va naître. C'est des choses qu'on a du mal parfois à se rappeler. Notre Seigneur Jésus-Christ, né le jour de Bethléem, le jour de Noël, au hameau de Bethléem, pour mourir. Et il meurt pour nous racheter nos péchés. Donc l'incarnation mène à la rédemption, et la rédemption a pour but direct la rémission des péchés. Attention, il ne faut pas interpréter ça de travers comme les modernistes le font en disant, mais puisque notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour la rémission des péchés, alléluia, tout le monde va au ciel. Non, ce n'est pas comme ça. C'est comme une clé, si vous voulez, qu'il faut avoir dans la main pour ouvrir la porte. Notre Seigneur Jésus-Christ, en quelque sorte, en puissance, rachète tous les péchés. Il faut que ça passe en acte. Et pour que la puissance puisse passer en acte, il va falloir avoir une vertu spéciale, qui est la vertu de charité. Voilà pourquoi il faut bien utiliser ce temps, ces derniers jours avant la fête de Noël, pour se préparer pour une bonne confession, si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, Saint Jean-Baptiste va donner des conseils qu'il faut bien comprendre. Il en donne quatre. Après avoir donné un conseil général, à préparer les voies du Seigneur, après il va rentrer dans les détails, il va donner quatre conseils. Premier conseil, que les chemins tortueux soient rendus droits. Deuxième conseil, que les chemins raboteux soient rendus unis. Troisième conseil, que les collines soient abaissées. Quatrième conseil, que les vallées soient comblées. Évidemment, pour comprendre ces merveilleux conseils, il faut passer par ceux qui ont la clé, l'Écriture sainte, les pères de l'Église. Et je voudrais vous donner un conseil que j'aurais dû vous donner avant, que j'ai complètement oublié, mais je vais donner comme conseil pour tous ceux qui ont un petit peu de temps de préparer votre messe du dimanche justement avec les pères de l'Église. Vous savez que sur le site dame-marie.net dont je m'occupe et qui fonctionne maintenant normalement, bien correctement, grâce à Guillaume que je remercie bien pour son aide, eh bien vous avez une partie qui s'appelle l'exégèse, le cours d'exégèse. Pour chaque... C'est groupé par cinq chapitres. Par exemple, aujourd'hui, c'est le quatrième dimanche de l'Avent. L'Évangile, c'est chapitre 3 de Saint-Luc. Donc, qu'est-ce que vous faites? Bien, vous allez sur le polycopier qui est au début de chaque groupe de cinq chapitres. Donc, j'explique après en long, en large et en travers les pères de l'Église. Mais au début, il y a un polycopier. Et sur ce polycopier, j'ai résumé, à partir des textes des pères de l'Église, ce que je vais expliquer après dans la conférence audio qui suit. Donc, il y a en général une quinzaine de conférences audio pour chaque cinq chapitres. Donc, vous allez sur le texte du polycopier, qui est au début de chaque groupe de chapitres. Par exemple, vous cherchez dans le polycopier chapitre 1 à 5 de Saint-Luc. Vous allez avoir le chapitre 3. Et au chapitre 3, vous allez au verset qui correspond à l'évangile que vous allez devoir lire pour la messe du dimanche suivant. Et vous lisez simplement les versets qui correspondent à l'évangile du dimanche suivant, et vous lisez le commentaire des pères de l'Église qui est là. Ça prend peu de temps, ça va prendre entre 5 et 10 minutes. En général, ça suffit. Et déjà, vous êtes mis dans la tête, vous serez mis dans la tête un peu ce qu'enseignent les pères de l'Église. Encore une fois, pour éviter ce qui a détruit complètement l'esprit catholique, le subjectivisme en matière d'interprétation de l'Écriture sainte. Sinon, on tombe dans le protestantisme. Et donc, il faut bien, bien s'accrocher à ce que disent les pères de l'Église. Alors, comment les pères de l'Église expliquent-ils ces quatre conseils que donne Saint Jean-Baptiste? Premier conseil, que les chemins tortueux soient rendus droits. Qu'est-ce que ça veut dire tortueux? Chemin tortueux, ça veut dire les chemins qui ne sont pas droits. Au lieu d'aller tout droit pour gagner du temps, le démon va nous faire des sinuosités, si vous voulez, dans notre vie spirituelle, pour qu'on oublie le point d'arrivée de notre vie spirituelle. à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il va ainsi nous faire perdre du temps, c'est comme dans la fable de la fontaine, du lièvre et de la tortue, faire perdre du temps au lièvre pour que finalement la tortue puisse arriver la première. Vous voyez? Et donc il faut faire attention à ça, parce que c'est extrêmement important à comprendre. Et le Père de l'Église explique que cette sinuosité représente la sensualité. De façon particulière, de façon plus générale, les trois concupiscences. Pourquoi? Parce que la sensualité, c'est-à-dire les sens qui se détachent en quelque sorte, qui se révoltent contre l'esprit, les sens, les passions sensuelles devraient être dirigées par la volonté, elles-mêmes dirigées par l'intelligence et l'intelligence soumise à Dieu, et bien cette sensualité va nous faire faire des détours épouvantables pour nous faire perdre le point d'arrivée, à savoir la crèche de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette sensualité nous fait perdre la paix intérieure. Si je commence à tomber dans les pensées de sensualité, la sensualité ouvre la porte, si vous voulez, à toute une série de problèmes. La sensualité va déboucher, par exemple, sur la paresse. La sensualité entraîne l'oisiveté, très souvent. L'oisiveté est la mère de tous les vices. La sensualité va entraîner également tous les péchés contre la pureté, d'abord par pensée, puis par action, et pas aussi par regard, surtout aujourd'hui. Et donc, il faut rendre droit, nous dit Saint Jean-Baptiste, rendre droit les chemins tortueux pour lutter contre la sensualité. Je peux vous donner un exemple qu'on trouve dans Cassien. Cassien, c'est il n'est pas canonisé par l'Église, mais c'est le fondateur de l'abbaye Saint-Victor à Marseille. Je crois que c'était au 6e siècle, j'ai oublié de vérifier les dates. Et Cassien avait fait de longues investigations dans les monastères de Haute-Égypte. À ce moment-là, un peu avant même, il y avait en Égypte des monastères extraordinaires sous l'autorité de Saint Pacôme, de Saint Paul du désert, Saint Antoine du désert, et il était allé passer plusieurs mois dans ces monastères pour justement apprendre la spiritualité de ces moines. Et il a ramené plusieurs exemples qu'il avait appris des pères de l'Église, c'était les abbés de ces monastères, qui vivaient dans des conditions de prière extraordinaires, avec des pénitences aujourd'hui qu'on qualifierait d'épouvantables, parce qu'à l'époque, ils avaient une foi beaucoup plus forte que la nôtre. Et Cassien donne l'exemple dans un monastère, s'il avait entendu ça dans une conférence spirituelle donnée par un des pères abbés, d'un jeune moinillon. Il venait d'arriver au monastère. Il venait d'arriver au monastère, il venait de se couper du monde, il avait bien du mal au début, parce qu'il avait encore beaucoup, beaucoup de tentations, justement de sensualité, à cause de sa vie antérieure avant de rentrer au monastère. Et donc il va s'ouvrir, dit le père abbé, il va s'ouvrir au maître des novices. Maître des novices qui était en charge justement des nouveaux moines, pour les aider dans la vie spirituelle. Et le maître des novices l'a reçu avec dureté, explique Cassien. Il l'a reçu avec dureté, en lui reprochant ses pensées épouvantables, scandalisant, en disant, comment vous, un moine, pouvez-vous accepter, tolérer des pensées pareilles? Et au lieu de réconforter, je dirais, d'encourager le jeune moine, il a été dur avec lui. Et le bon Dieu, pour lui donner une leçon, dans les heures qui ont suivi, il a refusé l'absolution, ce pauvre moine. Et pour lui donner une leçon, Dieu a permis que les tentations du jeune moine passent au maître des novices. Et on a vu ce pauvre maître des novices, une personne d'âge vénérable, courir partout comme un dératé dans tout le monastère, épouvanté par les pensées épouvantables qu'il avait justement dans la tête. Et à ce moment-là, le bon Dieu lui a donné la lumière. Il est allé se mettre à genoux au pied du jeune moine pour lui demander pardon de sa dureté. Pardon de sa dureté. Il lui a donné l'absolution. Il a compris que justement, il fallait beaucoup de charité pour essayer d'aider justement les pauvres pécheurs que nous sommes tous, qui peuvent avoir ces épreuves terribles. Et Cassien donne un autre exemple. Je vous le donne pour essayer de vous faire comprendre ces choses-là. Il donne un autre exemple. Je ne sais pas si c'est le même moine, le même jeune moine. Donc il y avait aussi beaucoup de tentations contre la pureté dans un monastère. Tentations de sensualité en général. Et il se battait, et le père abbé, le père supérieur du couvent, du monastère, avait remarqué que ce moine n'était pas très fervent, manquait de régularité dans sa vie, surtout au niveau des travaux manuels. Alors il est allé voir le père, le maître du novice en disant, donnez à ce jeune moine qui a beaucoup de tentations contre la pureté, qui est tenté de quitter le monastère, donnez-lui plein de travail. Et le maître des novices convoque le jeune moinillon et lui donne des travaux manuels presque toute la journée. On a vu ce pauvre moine courir partout pour faire tous les travaux manuels qui lui étaient imposés depuis le matin jusqu'au soir. Au bout de 4-5 jours comme cela, le père abbé, supérieur du monastère, convoque le jeune moine en lui disant, alors, vos tentations, qu'est-ce qu'elles deviennent? Ah! Si vous croyez que j'ai le temps d'y penser avec tout ce que j'ai à faire, vous voyez, c'est encore une leçon pour nous. Une leçon pour nous. Attention à l'oisiveté. Donc pour redresser les chemins qui sont tortueux, il faut, pour les rendre droits, selon le conseil de Saint Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il faut? Lutter contre cette sensualité. Alors une vie bien réglée. Surtout avec Internet, faire extrêmement attention à Internet, qui est en général la porte ouverte pour toutes ces tentations de sensualité qui nous guettent tous à cause justement des trois concupiscences, surtout la concupiscence de la chair, mais aussi la concupiscence des yeux et la concupiscence de l'orgueil. Deuxième conseil de Saint Jean-Baptiste, que les chemins raboteux soient rendus lisses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, si on ne va pas chercher chez les pères de l'Église, on ne peut pas trouver la solution. Mais les pères de l'Église expliquent que ces chemins raboteux, c'est des chemins pleins d'aspérités, ce qui fait qu'on ne peut pas aller vite parce que y a des pierres qui protrudent de partout, qui dépassent de partout. Il faut faire attention de ne pas se tordre les chevilles parce qu'on peut, à cause du mauvais état des chemins qui sont trop raboteux. Les pères de l'Église expliquent que ces chemins raboteux représentent la colère. La colère qui donne des aspérités sur le chemin. Si j'ai du mal, justement, parfois à rester sur le chemin qui mène au bon Dieu, parce que je vais aller trop vite, je tombe dans la colère, je tombe dans l'impatience, et cette impatience me déconnecte de Dieu. D'où, deuxième chose, après avoir lutté contre l'immortification de l'imagination et des sens, il faut aussi lutter contre la colère par la vertu de patience. C'est mettre entre les mains de mon Dieu et dire, oh mon Dieu, que votre volonté soit faite. J'ai beaucoup de tentations, j'ai beaucoup de désolations, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de tentations de toutes sortes, que votre volonté soit faite. Je sais que vous m'avez promis que je ne serai jamais tenté au-delà de nos forces. Ensuite, troisième conseil, le troisième et quatrième conseil de Saint Jean-Baptiste, ils doivent être groupés, que les collines soient abaissées et que les vallées soient remplies. Pourquoi? Pour que l'on puisse avoir un chemin uni, un chemin horizontal. Au lieu de monter au sommet de la montagne et redescendre au fond de la vallée, eh bien, il faut prendre du matériel sur les collines, arracher les rochers, arracher la terre, remplir les vallées pour pouvoir avoir un chemin uni vers notre Seigneur. On me dit, monsieur l'abbé, c'est bien vu, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, encore une fois, il faut aller au père de l'Église. Et sans aller au père de l'Église, c'est incompréhensible. Et le père de l'Église explique, cette colline, c'est le peuple juif. La vallée, c'est le peuple des gentils, c'est le peuple des non-juifs. Donc le peuple juif est le peuple choisi par Dieu de l'Ancien Testament, mais il est tombé dans l'orgueil. La montagne élevée, c'est le symbole de l'orgueil. Et donc Dieu va enlever ce matériel et le placer dans la vallée pour remonter le niveau de la vallée, afin qu'il y ait un chemin uni depuis le peuple élu de l'Ancien Testament, qui est le peuple juif, et le peuple élu du Nouveau Testament, qui est le peuple catholique. Et le Père de l'Église explique que, au contraire, au fond de la vallée, on voit pas beaucoup la lumière. Donc le peuple des gentils, c'est-à-dire nous, le peuple gentil cherche la lumière. Et la lumière ne peut pas pénétrer ces âmes parce qu'elles sont au fond de la vallée. Donc Dieu va prendre une partie du matériel qu'il avait donné aux Juifs pour le donner, remonter le niveau de la vallée et remonter le peuple des gentils vers la lumière. La lumière, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que justement, ils puissent reprendre le contact avec cette lumière divine qui est la divinité de notre Seigneur. Vous voyez, ce sont des exemples, mais c'est des exemples magnifiques que donnent les pères de l'Église. Les modernes ont un mépris souverain pour les pères de l'Église. Pour ceux qui ont un petit peu de temps, je conseille aussi beaucoup les livres qui ont été republiés, je crois, par les éditions Saint-Rémy, les livres de Don de Montléon. Don de Montléon est un bénédictin des années 50 à Paris, qui est à la source, à l'abbaye de la Source, qui a repris tous les pères de l'Église, justement, pour expliquer le sens caché de l'Écriture sainte. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de faire toute la Bible, c'est un travail énorme. Il a fait une bonne partie de l'Ancien Testament. Et je vous conseille beaucoup ces livres qui se lisent extrêmement facilement, extrêmement rapidement, et qui donnent l'esprit d'Église. Penser tel que l'Église l'a toujours fait. Loin de nous, mes bien chers frères, cette idée qu'il faut que chacun puisse interpréter librement l'Écriture sainte. C'est le meilleur moyen de tomber dans le protestantisme, tomber dans l'hérésie. Et il y a un autre conseil, on peut associer ces conseils de Saint Jean-Baptiste à un autre fait qui est expliqué dans la première aux Corinthiens, qui est choisie pour l'épître de ce jour. Il est parlé des administrateurs. Les administrateurs, qu'est-ce qu'il leur est demandé? Demande Saint Paul, la fidélité. Qui sont ces administrateurs? Ces administrateurs sont les catholiques qui ont charge d'âme. Nous, prêtres, bien sûr. Le pape, bien sûr, pour l'Église, l'évêque pour le diocèse, le curé pour ses fidèles, les prêtres pour ses fidèles qui viennent à lui, et les parents, ou les futurs parents, pour les enfants, les futurs enfants. Donc, transmettre aux enfants ce qu'ils ont reçu, c'est ça la fidélité, que les administrateurs soient trouvés fidèles. Et cette fidélité est absolument essentielle. N'oubliez pas que la grâce des grâces, dit l'Écriture sainte, et dit aussi là, non pas l'Écriture sainte, mais le catéchisme, la grâce des grâces, la plus grande des grâces qu'on puisse recevoir, c'est la grâce de la mort en état de grâce, la persévérance finale. Être en état de grâce le jour de notre mort. Et c'est comme ça que j'ai essayé de consoler un petit peu là, cette dame que je connaissais bien, qui vient de perdre sa maman en Normandie. Je lui dis, elle a pu se confesser 2 jours avant sa mort. J'étais un peu fatigué, j'avoue, j'avais même pensé à annuler mon voyage en Normandie, parce qu'il y a presque 850 km pour monter là-haut. Et puis j'y suis quand même allé, j'arrivais lundi soir, le mardi après-midi, je suis allé à l'hôpital pour voir cette dame, et j'ai pu la confesser. 2 jours après, elle était morte. Et j'ai dit à sa fille, Madame, remerciez le bon Dieu. Remercier le bon Dieu, même si c'est évidemment, spirituellement parlant et même physiquement parlant, extrêmement dur de perdre sa maman. Remercier le bon Dieu que votre maman ait pu se confesser avant de mourir. Et donc, elle a certainement reçu cette grâce de la persévérance finale. Et il faut demander cette grâce. Il ne suffit pas de vivre habituellement en état de grâce. Il faut vivre habituellement en état de grâce pour mourir en état de grâce. Et comme on ne connaît pas l'heure de sa mort, il faut être prêt à longueur de journée, parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus qu'il viendrait comme un voleur. Il viendra comme un voleur, et donc il faut faire attention, vous voyez, à toutes ces choses-là qui sont finalement extrêmement, extrêmement importantes. Est-ce que je vais être trouvé fidèle? Certains docteurs expliquent que le terreau dans lequel le bon Dieu va planter la graine de la foi, c'est le terreau de l'humilité. La graine va germer, va commencer à donner une tige qui va monter, monter, monter. Et ensuite, il va y avoir plusieurs rangées de feuilles. D'abord la foi, puis l'espérance, puis la charité. Et tout en haut, il y a une magnifique fleur qui va s'ouvrir. Et il faut que cette fleur puisse être offerte à Dieu, notre Créateur et notre Rédempteur, le jour de notre mort. Donc le jour de notre mort, on coupe la fleur et on l'offre à notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette fleur, explique ces docteurs, cette fleur, c'est la fleur de la persévérance. Persévérance finale. La grâce des grâces, la persévérance finale. Vivre en état de grâce pour mourir en état de grâce. Vous avez, dans l'histoire de l'Église, on voit très bien certaines personnes qui ont été parfois certainement des gens très pieux, des gens avec beaucoup de vertus, qui malheureusement ont très mal terminé. Pensez par exemple à Luther. Pensez à Voltaire. Pensez à tous ces grands ennemis de l'Église qui étaient en même temps des catholiques. Martin Luther était prêtre catholique, moine Augustin. Même s'il avait, comment se fait-il qu'il soit mort loin de Dieu? Il est mort loin de Dieu, effectivement, c'est vrai. En fait, il s'est suicidé après une beuverie et une orgie épouvantable. Il s'est pendu avec les draps de son lit. Eh bien, comment se fait-il que des gens qui avaient reçu tant de grâces, il était prêtre, il était moine, un excellent prédicateur, il est mort loin de Dieu. Et je sais que quand on lit ces choses-là, quand on médite un petit peu sur ces points-là, ça va nous maintenir dans l'humilité. Si Martin Luther est tombé, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Regardez tous ces prêtres, pour ceux qui sont vraiment prêtres, des prêtres des années 50, qui ont été formés encore sous le pontificat de Pie XII. Ils sont arrivés en 62, avec le début de Vatican II, ils ont tout envoyé promener. Et pratiquement du jour au lendemain, en 65, fin de Vatican II, tout a sauté. Ils ont fait sauter la messe, ils ont fait sauter le bréviaire, ils ont fait sauter la vie spirituelle, ils ont tout fait sauter. Il ne reste plus rien. D'où l'apostasie générale qui a commencé, on peut le dire, en 65, à la fin de Vatican II. Pourtant, ces prêtres avaient fait du bon travail. Pourtant, ces prêtres avaient certainement, pendant de longues années, rempli leur devoir d'État. Très, très peu ont demandé pardon avant de mourir. La plupart sont morts dans leur hérésie moderniste, qui avait été condamnée par le pape Saint-Pie X. Pourquoi sont-ils morts comme ça? Comment le bon Dieu a-t-il permis qu'il meure dans des états comme ça? Se maintenir dans l'humilité, mes chers frères. Se maintenir dans l'humilité pour bien nous rappeler que sans la grâce de Dieu, on ne peut rien faire. Et qu'avec la grâce du bon Dieu, on peut tout faire. Qu'on n'entende pas ce qu'on entend malheureusement trop souvent, monsieur l'abbé, moi je suis fort dans la foi, pas de problème. Je connais la foi, je connais les pères de l'Église, je connais la doctrine de l'Église, je garde la foi. Vous garderez la foi si Dieu permet que vous la gardiez. Mais si le bon Dieu, qui peut avoir un autre jugement que nous sur la question, permet que vous perdiez la foi, je vais la perdre, moi le premier. Donc maintenons-nous, mes bien chers frères, dans l'humilité. La vertu principale pour arriver à la crèche, c'est la vertu d'humilité. Rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit, les pères de l'Église qui font remarquer que l'ouverture de la grotte dans laquelle la Sainte Famille se tient le soir de Noël, il faut se baisser pour rentrer dans la grotte. Et tous les pères de l'Église expliquent qu'il faut se baisser parce qu'il faut la vertu d'humilité. L'orgueilleux reste à la porte. Hérode et les pharisiens de Jérusalem vont rester à la porte. Ils ne vont pas vouloir s'abaisser. Ils ne vont pas vouloir reconnaître dans cet enfant un homme qui va souffrir, mais si souffrant, un Dieu et un roi. Par contre, ceux qui acceptent de se baisser, les anges bien sûr, mais aussi les bergers, les rois mages, pourtant qui avaient beaucoup de richesses, des grands de ce monde. Eux, ils acceptent de se baisser. Et ils viennent adorer, présenter l'or, l'encens et la myrrhe à cet enfant nouveau-né. Ils voient un enfant, ils reconnaissent cet enfant un roi, donc ils donnent l'or à un dieu, donc ils donnent l'encens et la myrrhe parce qu'ils voient un Messie souffrant. Et pourtant, ce sont des païens. Ils vont rester quelques temps, puis repartir, et c'est l'apôtre saint Thomas qui, beaucoup plus tard, va les baptiser. Et Dieu va leur donner la grâce du martyr. Le corps des saints rois mages, saint Melchior, saint Balthazar, saint Gaspard est une cathédrale une cathédrale allemande à Cologne, cathédrale de Cologne. Donc demandons, mes bien chers frères, demandons cette grâce de l'humilité. Et la reine de l'humilité, n'avez vous pas qui c'est, hein? La reine de l'humilité, c'est qui? La reine de l'humilité, c'est notre Sainte Vierge Marie. Et en cette dernière semaine, avant la fête de Noël, alors que Notre-Dame est en train de tout préparer pour l'arrivée de l'enfant, demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous maintenir dans l'humilité. Toutes les grâces passent par elle. Donc la grâce de la persévérance et la grâce de la persévérance finale sont des grâces qui passent par la Très Sainte Vierge Marie, passant par elle. Gardez bien votre chapelet tous les jours pour vous préparer la fête de Noël. Afin que le jour de Noël, nous puissions justement nous prosterner aux pieds de l'enfant Jésus. Priez Saint Joseph, priez la Sainte Famille, priez la Très Sainte Vierge Marie maintenant. Et la Très Sainte Vierge Marie va prendre l'enfant nouveau-né qu'elle a emmailloté de l'ange et va littéralement le déposer sur nos mains pour que nous puissions nous puissions l'adorer, que nous puissions bercer. Demandons toutes ces grâces à la très sainte Vierge Marie, afin d'être vraiment parfaitement prêt pour la fête de Noël qui approche maintenant à grands pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.